franceinter.fr.
À la une de la science, c'est confirmé, il n'y a jamais eu de pause dans le réchauffement de la planète. Entre 1998 et 2012, la tendance du réchauffement planétaire avait un peu baissé selon un rapport du GIEC datant de 2013. Une information dont s'étaient emparés les climato-sceptiques, criant aussitôt au canular à propos du réchauffement de la planète annoncé. Alors l'année dernière, une étude de l'Agence océanique et atmosphérique américaine remettait les pendules à l'heure en corrigeant les biais liés notamment à des systèmes de mesure. Et une nouvelle étude publiée dans Science Advances vient confirmer ces résultats. Non, il n'y a pas eu de pause de l'augmentation des températures au début des années 2000. Valérie Masson-Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléoclimatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, coprésidente d'un groupe de travail au GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement entre 1998 et 2014 qui a donné autant de grains à moudre aux climato-sceptiques ?
En fait, l'évolution du climat, c'est pas quelque chose qui montre une tendance monotone. Donc, il y a une tendance au réchauffement qui est très claire depuis la fin du 19e siècle, mais à cela se superpose une variabilité d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre. Et le fait de travailler sur une période relativement courte, quelques années, une quinzaine d'années, montre l'effet à la fois de l'influence de l'homme sur la tendance au réchauffement, mais aussi l'effet de la variabilité spontanée du climat, et en particulier des échanges entre l'océan et l'atmosphère. Et pour les grandes bases de données qui permettent de suivre l'évolution du climat à la surface de la Terre, il y a tout un travail méticuleux qui se fait pour évaluer la qualité des données et ce qu'on appelle homogénéiser les différents jeux de données. Donc un chercheur de l'Agence américaine Océan-Atmosphère, Carl, en 2015, a retravaillé sur l'homogénéité des données de température de surface des mers, a montré qu'il fallait mettre en place des corrections pour homogénéiser les mesures, la valeur absolue des mesures, entre les mesures faites par bateau dans le passé et les mesures faites avec des instruments automatiques, des flotteurs profilants, pour la période la plus récente. Et ça conduisait à revoir à la hausse le rythme du réchauffement à la surface des océans. De ce fait, comme les océans occupent 2/3 de la surface de la Terre, ça amenait à revoir un peu à la hausse le rythme du réchauffement global entre 1998 et 2012, mais qui reste, sur cette période relativement courte, un peu inférieure à la moyenne des décennies précédentes, même si la différence n'est pas significative, parce que faire une tendance sur une période courte reste difficile. Et l'étude récente qui est publiée par Zeke Hausfather et d'autres, dans la revue Science Advances, confirme parfaitement la validité de cette correction, en comparant d'autres sources de données, en particulier des flotteurs, des bouées et des données par satellite.
Agnès
Donc, en fait, pour moi, la science telle qu'elle doit fonctionner, en fait, par la vérification de la qualité du travail par des groupes indépendants.
Agnès. D'accord, donc ils ont corrigé à nouveau des biais liés à des systèmes de mesure. Mais pourquoi une nouvelle étude pour confirmer des résultats déjà produits justement par cette fameuse agence océanique et atmosphérique américaine ?
Ben celle-ci avait été le travail et la qualité du travail de celle-ci avait été mise en cause par l'examen par la Chambre des représentants, donc le Parlement américain. Et donc l'étude de l'Université de Berkeley, finalement, donne raison aux climatologues de l'Agence fédérale Océan-Atmosphère.
Donc c'est pour donner encore un peu plus de poids aux scientifiques.
Alors, moi, je ne peux pas répondre sur ce point-là. Je pense que ce qui est important, c'est que dans le travail scientifique, et en particulier en sciences du climat, puisqu'il y a des enjeux de société importants, il y ait toute transparence possible sur les données d'observation, sur les corrections qui sont effectuées, sur les méthodes utilisées pour extrapoler les données d'observation, de sorte à pouvoir estimer de manière la plus précise possible les incertitudes.
Et c'est une bonne chose qu'il y ait une certaine redondance dans les opérateurs et les études qui sont menées sur ce thème. On l'a vu souvent avec le GIEC, plusieurs scénarios sont envisagés. Alors tous, malheureusement, envisagent la hausse des températures, mais de façon plus ou moins importante. On l'a dit, 2016 est l'année la plus chaude. Est-ce que ça veut dire qu'on est en train d'aller vers le pire des scénarios, en quelque sorte?
Alors peut-être juste sur votre premier point, donc il y a 5 groupes dans le monde qui font des estimations de l'évolution de la température à la surface de la Terre et les résultats sont très cohérents dans la limite des incertitudes. Donc l'année 2016, elle atteint 1,3 degré de plus que le climat à la fin du 19e siècle. Ça, c'est un record dans une tendance pour un réchauffement depuis toujours la fin du 19e siècle, qui est de l'ordre de 1 degré. Si on met les années donc 2014, 2015, 2016, en plus de la période où le rythme du réchauffement global s'était un petit peu ralenti, on voit très clairement qu'on retrouve un rythme de réchauffement comme depuis les années 1970 et qui est également tout à fait cohérent avec les simulations climatiques en réponse à l'ajout de gaz à effet de serre. Et je voudrais ajouter un point qui est que la température moyenne à la surface de la Terre, c'est un indicateur important. Il est important parce que nous vivons à la surface de la Terre, parce que beaucoup d'impacts du réchauffement sont proportionnels à ce réchauffement, mais c'est pas le meilleur indicateur de l'état du climat. Et il y a deux paramètres essentiels. Le premier, c'est le bilan d'énergie au sommet de l'atmosphère. Il est en déséquilibre parce qu'en rajoutant des gaz à effet de serre, on piège de la chaleur. Et le deuxième, c'est le bilan d'énergie dans le climat. Et celui-ci est dominé par ce qui se passe dans les océans, en surface et en profondeur. Et là, il est très clair que le réchauffement, l'accumulation d'énergie, donc le contenu de chaleur des océans, augmente de manière régulière et est tout à fait cohérent avec le déséquilibre des échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace.
Agnès, une dernière question.
Oui, on a bien compris qu'il ne fallait pas se focaliser sur le court terme, mais vous dites quand même que 2014, 2015, 2016, il y a des tendances à un rythme de réchauffement climatique qui s'accélère. Qu'est-ce que ça peut induire dans la mise en place de l'accord de Paris sur le climat ?
Alors, par rapport à l'accord de Paris sur le climat, celui-ci exprime comme objectif de limiter le réchauffement largement en dessous de 2 degrés et de renforcer les efforts pour le limiter à moins de 1,5 degré. Donc, compte tenu du rythme de réchauffement de l'ordre de 0,17 à 0,18 degrés tous les 10 ans, on atteindra probablement pour la première fois 1,5 degré de réchauffement pour une année particulière lors du prochain gros événement El Niño. Donc d'ici la prochaine décennie et d'ici peut-être quelques décennies en moyenne sur une période de l'ordre d'une dizaine d'années. Donc ça, c'est un point qui est important et ça reflète en fait la réponse du climat aux perturbations qui sont déjà dans l'atmosphère et le fait qu'on continue à rejeter des quantités importantes de gaz à effet de serre. Si on prend la manière dont nous perturbons l'évolution du climat, il y a un signe positif, qui est une stagnation des émissions mondiales de dioxyde de carbone depuis quelques années, essentiellement par la baisse de la consommation de charbon en Chine. Mais les émissions de méthane, qui est l'autre gaz à effet de serre principal facteur du réchauffement dû à l'activité humaine, continuent à un rythme très élevé.
Continue d'augmenter à un rythme très élevé. Merci Valérie Masson-Delmotte et Agnès Fèvre. À bientôt dans La Tête au Carré.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir et bonne année.
À vous aussi. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, aux États-Unis, la mortalité due au cancer a baissé de 25% en 25 ans. C'est ce qu'affirme le rapport annuel de l'American Cancer Society, publié hier. Ainsi, le taux de décès lié au cancer de la prostate a baissé de 51% entre 1993 et 2014, tandis que celui lié au cancer du sein a baissé de 38% entre 1989 et 2014. Cette diminution de la mortalité serait liée à la baisse constante du tabagisme et à l'amélioration de la détection et du traitement de la maladie. À population constante, ce sont donc 2,1 millions de morts évitées depuis 1991. Notre capacité à reconnaître les visages mieux comprises. Une équipe de l'université de Stanford a scanné les cerveaux d'une cinquantaine d'enfants et d'adultes s'intéressant à la région associée à la reconnaissance faciale. Publiée dans Science, les résultats de leur étude révèlent que si le nombre de neurones dans cette zone n'augmente pas, les connexions entre neurones, elles, prolifèrent jusqu'à nos 30 ans. Or, les chercheurs estimaient que ce processus avait lieu essentiellement durant les toutes premières années de notre vie. Le développement du cerveau serait donc plus varié qu'on le pensait. Enfin, l'habitat des futurs explorateurs de Mars pourrait bien être fait de glace. C'est un concept surprenant proposé par une équipe d'experts de la NASA et d'architectes du secteur privé. La structure serait composée d'un anneau gonflable qui abriterait l'espace de vie, anneau lui-même surplombé par un dôme d'eau glacée. Cette solution aurait le double avantage de laisser passer la lumière tout en bloquant les rayons cosmiques dangereux pour l'homme. Cet igloo martien géant pourrait être installé par de simples robots avant l'arrivée des astronautes.